pas bon. Un dollar trop bas, c'est pas bon non plus. Et le dollar est abattu un record de baisse ce matin. 1,2696. On est maintenant à 1,2671. Le dollar qui perd quand même encore 0,63% par rapport à l'euro. Alors, baisse du dollar et effritement des marchés actions. Le CAC, moins 0,28% à la Bourse de Paris. Pour France Inter, Jean-Pierre Guerre.
La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute, ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélina, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous et bonne année, content de vous retrouver en direct pour de nouvelles émissions. Aujourd'hui, 13 avril 1975, la guerre du Liban.
La nuit dernière, on a encore entendu des fusillades près de Beyrouth et les Palestiniens accusent les militants phalangistes. L'armée libanaise est également entrée en scène. Elle a investi plusieurs quartiers de la capitale libanaise. Il faut à tout prix empêcher l'affrontement entre les communautés.
Mille ans d'histoire. Pendant des années, au Proche-Orient, le Liban était considéré comme le modèle d'une cohabitation exemplaire entre les chrétiens et les musulmans. Un pays démocratique, si riche et si paisible qu'on le surnommait la Suisse du Moyen-Orient. Et il le serait sans doute resté s'il n'avait pas été entraîné malgré lui dans les conflits du Proche-Orient. À la fin des années 60, l'arrivée massive des Palestiniens bouleversait l'équilibre entre les communautés musulmanes et chrétiennes et soumettait le Liban aux ambitions de ses puissants voisins syriens et israéliens. Le 13 avril 1975, dans la banlieue de Beyrouth, des coups de feu étaient tirés sur des chrétiens maronites. Quelques heures plus tard, un quart de Palestiniens était mitraillé et 27 de ses passagers tués. C'était le début d'une guerre civile qui allait durer 15 ans. France Inter, Philippe Rochaud, le 15 avril 1975.
Alors l'ambiance à Beyrouth, eh bien tout à l'heure on entendait encore des roquettes RPG exploser dans le quartier de Ain el-Mané et des rafales de mitrailleuses lourdes, moins intenses toutefois que cette nuit où toute la population a été réveillée par les explosions et plusieurs attentats. La situation reste cependant assez tendue dans les rues de la capitale. La plupart des magasins sont fermés par crainte de nouveaux attentats. Les écoles également ont fermé leurs portes. Dans les quartiers où les affrontements se poursuivent, dans la banlieue sud-est de Beyrouth, miliciens des Kataeb et Fedayeen ont établi des barrages de contrôle depuis hier soir. Mais le premier ministre libanais a déclaré tout à l'heure que l'armée et les forces de sécurité intérieure occupaient les points où se déroulaient les combats. Et effectivement, dans le centre de Beyrouth, il y a de nombreux barrages militaires maintenant.
Georges Corme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, historien, ancien ministre des Finances du Liban et auteur d'un livre, Le Liban contemporain, qui vient d'être publié aux éditions La Découverte, un livre dans lequel, bien entendu, vous parlez longuement de cette tragédie qui commençait en 1975. On vient de l'entendre, une guerre civile de 15 ans. Comment expliquer qu'en si peu de temps, ce qu'on appelait, je l'ai dit tout à l'heure, la Suisse du Moyen-Orient devienne brusquement le théâtre d'une guerre civile effroyable et très longue? On parle souvent du communautarisme, de la division du Liban en plusieurs communautés.
Et évidemment, le plus facile est de présenter les événements très complexes qu'a connu le Liban entre 1975 et 1990 comme une guerre communautaire. Et c'est la facilité, elle est presque irrésistible. Puis on emploie le terme de guerre civile qui me paraît tout à fait impropre lorsque vous avez eu tellement d'armées étrangères qui ont défilé dans ce pays et que il y avait le problème palestinien très explosif déjà à l'époque. Puisque, comme vous l'avez mentionné vous-même, les Palestiniens qui se constituent en mouvement armé après la défaite des armées arabes contre Israël en 1967, sont chassés de Jordanie, refluent sur le Liban. Et évidemment, quand on dit que les événements ou la guerre débutent en 1975, ça n'est pas tout à fait exact, parce que la première attaque israélienne, et je dis bien israélienne, qui déstabilise le Liban, elle est en 1968 sur l'aéroport de Beyrouth, où toute la flotte commerciale aérienne libanaise est détruite, ce qui avait d'ailleurs entraîné une position française très dure du général de Gaulle avec un renforcement de l'embargo sur les armes contre Israël.
Georges, comme quand même il y a ces fameuses communautés en plus qui sont à un moment donné armées, il est vrai qu'elles s'obtiennent des soutiens à l'extérieur et qu'elles-mêmes font souvent appel et feront appel pendant cette guerre à l'extérieur. Enfin, il faut rappeler que c'est un pays avec 17 communautés, bon, étant pour moitié chrétienne, pour moitié musulmane. Je crois que les chrétiens, d'ailleurs, sont longtemps restés majoritaires, ce qui explique à son indépendance, en 1943, ce que vous appelez le pacte national, le fait qu'on s'est partagé le pouvoir entre les grandes communautés, selon la communauté à laquelle on appartenait, et selon l'importance de ces communautés. Par exemple, le président de la République était toujours chrétien, le premier ministre était musulman sunnite, et le président de l'Assemblée libanaise était chiite, pardon.
Oui, alors tout ça demande un petit peu d'explication. Je vais essayer d'être rapide. D'abord, il faut bien rappeler que le grand clivage au Liban n'est pas un clivage entre chrétiens et musulmans. C'est d'abord un clivage à l'intérieur des différentes églises chrétiennes, n'est-ce pas ? Et que le plus grand nombre de communautés sont des communautés chrétiennes qui appartiennent à des églises qui ont eu des contentieux très forts entre elles sur des querelles de nature christologique.
C'est les maronites, on rappelle, les maronites, les grecs orthodoxes,
les grecs catholiques, les syriaques, les chaldéens, les arméniens monophysites. Il y a eu dans cette région du monde pendant les 10 premiers siècles des querelles entre églises chrétiennes extrêmement fortes et qu'il y a eu même des combats armés à l'époque, n'est-ce pas ? Du côté musulman, on a trois communautés simplement qui sont les sunnites, les druzes et les chiites. Le clivage entre sunnites et chiites est un clivage fort, n'est-ce pas, dans l'islam, qui a trait à la succession du prophète et à la façon d'interpréter le Coran. Et ce que mon livre essaye de montrer, n'est-ce pas, c'est que en réalité, la dynamique des hostilités à l'intérieur des églises chrétiennes, comme à l'intérieur des communautés musulmanes, est dans l'histoire du Liban souvent beaucoup plus forte que l'opposition chrétien-musulman. Et l'habillage pour qu'il s'agisse de la guerre entre 75 et 90 ou des grands événements non moins dramatiques du 19e siècle entre maronites et druzes, en fait, cela cache tout à fait autre chose. Au 19e siècle, c'était la rivalité France-Angleterre. Au 20e siècle, c'est le problème palestinien.
Oui, effectivement. Là, vous le rappelez, la grande cause, c'est finalement l'irruption du Liban, ou plutôt l'irruption de la guerre du Proche-Orient qui concerne directement le Liban, qui est au nord de l'État d'Israël. Et c'est d'ailleurs par un conflit, puisque les Palestiniens arrivant, la population musulmane, évidemment, augmente. Et c'est par un conflit entre...
Non, mais excusez-moi, ça n'est pas une question de majorité numérique.
Oui.
Vous aviez énormément de chrétiens qui étaient tout à fait pro-palestiniens et qui appuyaient les mouvements armés palestiniens. Ils faisaient partie de la gauche et ça va être une des composantes majeures de ce qu'on a appelé le mouvement national qui va s'opposer à des partis conservateurs qui, eux, sont massivement chrétiens, mais qui n'ont aucune majorité à l'Assemblée parlementaire.
En tout cas, au début, la guerre se limite à un affrontement très violent donc entre chrétiens et musulmans. Écoutez, France Inter, Philippe Rochaud, le 8 octobre 1975.
Cette procession dans la montagne libanaise que font chaque soir les femmes des villages maronites, c'est la prière pour les combattants chrétiens qui défendent la montagne. Elle montre à quel point cette communauté peut vivre aujourd'hui dans la peur. Pour la première fois, elle a été atteinte dans son existence. Le chef des phalanges, Pierre Gemayel, le reconnaît.
La foi du chrétien qui avait accepté, qui avait choisi, qui avait commencé à croire dans cette formule, eh bien sa foi commence à s'ébranler. Et du point de vue matériel, les pertes se comptent plus par millions, mais par milliards. Et les tués se comptent pas par dizaines, mais par centaines.
Thank you. d'écouter France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui 1975-1990, la guerre du Liban.
Et c'était la grande chanteuse libanaise chrétienne Férouz, une chanson qui veut dire, je crois, Liban, je t'aime, Bebak Abloumane, c'est ça, non?
Mohammak Loubnane, oui, mais il n'est pas la peine de dire qu'elle est chrétienne. Férouz est non seulement une grande chanteuse libanaise, mais à l'échelle de l'ensemble du monde arabe, elle est considérée comme une très grande diva.
Et dans un pays où en 1975 se déclenche donc cette guerre très violente dès le début, il y a des massacres, les phalanges chrétiennes, ce mouvement qui avait été créé en 1936 et qui sont armés, massacrent des musulmans, les chrétiens sont eux-mêmes massacrés dans la ville de Damour, c'est extraordinaire la violence avec laquelle se déchaîne.
Il faut faire attention encore une fois au début, la guerre ne prend une tournure exclusivement communautaire qu'après l'invasion israélienne de 82. Jusque là, vous avez une coalition de partis de la gauche libanaise dans lequel vous avez énormément d'éléments chrétiens, y compris au niveau populaire, n'est-ce pas, contre l'alliance de deux partis chrétiens qui sont très minoritaires au Parlement libanais, qui sont les Phalanges de Pierre Gemayel et le Parti National Libéral de Camille Chamoun, et qui sont des alliés inconditionnels de la politique américaine au Moyen-Orient. Donc, c'est beaucoup plus deux conceptions politiques, une coalition anti-impérialiste et une coalition pro-impérialiste qui s'affrontent autour de l'existence des Palestiniens au Liban et de la relation à l'État d'Israël. Alors, ce sont des chrétiens ou des musulmans qui meurent, mais les médias, malheureusement, ne font jamais la nuance. C'est-à-dire, dans d'autres conflits aussi, je ne parle pas seulement du conflit libanais, d'ailleurs, j'ai remarqué dans tous ces extraits qui sont donnés, c'est toujours ce qui est mis en avant, c'est la communauté religieuse, mais on peut citer un nombre de combattants chrétiens qui étaient du côté des partis de gauche, qui sont morts aussi, qui étaient aussi importants que la plupart des civils. Alors, ce que mon livre explique, c'est qu'en réalité, cette guerre s'est faite sur des civils. Elle s'est très peu faite par des combats directs de milices entre elles. Et c'était des quartiers entiers qui étaient martyrisés suivant la milice qui les tenait, n'est-ce pas? Vous prenez ce qu'on appelait Beyrouth Ouest, c'était un quartier extrêmement mixte, qui l'est resté jusqu'à l'invasion israélienne. C'est après, l'invasion israélienne a provoqué, à partir de 82, des alignements communautaires que l'État d'Israël lui-même a beaucoup encouragé, et les puissances occidentales ont fait cette gaffe monumentale de vouloir d'installer deux présidents phalangistes successifs à la tête de l'État, alors que l'armée israélienne entourait le Parlement libanais. C'était lamentable.
On y reviendra, Georges Cor, mais avant même l'intervention des Israéliens en 82, six ans avant, voilà que le conflit s'internationalise avec l'arrivée de la Syrie, une première intervention étrangère, donc la Syrie, dont les premiers soldats entrés au Liban en mai 1976. France Inter, Jean-Pierre Elkabbach.
Près de 60 chars syriens ont pénétré cette nuit au Liban avec un régiment de 2000 hommes. Bérets rouges, tenues léopards. Après la relance des combats ces derniers jours qui ont fait 500 morts en un week-end, la Syrie accentue donc son intervention militaire au Liban.
Mon espoir est qu'on pourra surmonter les difficultés actuelles et de former un cabinet d'unité nationale le plus vite possible.
Quel est votre principal ennemi aujourd'hui, votre principal obstacle, justement, dans la réalisation de cette politique?
C'est peut-être l'égoïsme et de fuir la réalité. Nous avons senti le besoin de quelqu'un de venir nous prendre par la main afin de nous mettre sur le chemin exact et droit.
C'était le premier ministre libanais de l'époque, Rachid Karameh. On voit qu'il souhaitait l'arrivée des Syriens, que souhaitaient surtout les chrétiens également. En fait, c'est à leur demande que les Syriens sont intervenus au début.
Parce que justement, cette coalition qu'on appelait palestino-progressiste ou du mouvement national allié au mouvement palestinien avait le dessus militaire. Et donc, l'intervention syrienne semblait s'imposer si on ne voulait pas voir le Liban tomber dans un régime de gauche qui en plus aurait fait de la surenchère non seulement anti-israélienne mais probablement anti-syrienne. Donc le premier ministre de l'époque qui a été assassiné par la suite malheureusement en 87 et qui était le leader de Tripoli au nord, donc ayant des relations très étroites avec la Syrie de par la position géographique de la ville.
Tripoli au Liban.
Tripoli au Liban, oui, bien sûr. A entériné l'entrée des troupes syriennes. Je dois dire que ça a été un des seuls leaders musulmans qui l'ait fait. Les autres étant très hostiles à l'entrée des troupes syriennes, puisque justement c'était pour freiner l'avancée de la coalition anti-phalangiste.
En tout cas, cette intervention syrienne était de 76 était abondamment commentée, bien sûr, par les journaux français de l'époque, la revue de presse Stéphanie Duncan.
Et la France réagit de manière très passionnelle aux événements libanais. En gros, on peut dire que la droite applaudit plutôt à l'entrée des troupes syriennes au Liban, tandis que la gauche s'indigne. À gauche, Libération et le quotidien de Paris titrent « Invasion syrienne au Liban et l'humanité ». L'affirme, toutes les organisations politiques libanaises, à l'exception des phalanges fascistes, ont condamné cette nouvelle intervention étrangère. Au contraire, François présente la Syrie comme un sauveur. Pour les civils libanais, écrit François, décimés, exténués, terrorisés, victimes du cycle croissant des massacres, l'armée syrienne est peut-être le dernier espoir. Même sentiment dans l'Aurore, qui titre « Liban, force syrienne au secours des villages chrétiens assiégés ». Et Roland Faure, l'éditorialiste de l'Aurore, le constate « L'ordre règne au Liban ». Les 15 000 Syriens qui campent avec leurs chars sur les ruines accumulées aux portes de Beyrouth par 14 mois de massacres sont parvenus à arrêter les combats fratricides. Le journal La Croix l'affirme aussi, la Syrie était le dernier recours dans l'impossible imbroglio libanais. Pourtant, ce journal n'est pas dupe des intentions de la Syrie. Elle pourra enfin réaliser, je cite, son rêve secret d'une grande confédération englobant sous sa tutelle Jordanie, Liban et un futur micro-État palestinien à sa dévotion. Le Figaro, de son côté, le remarque, l'opération syrienne a été soigneusement préparée et minutée et le général Assad avait le double feu vert de Washington et de Jérusalem. Le Figaro qui ne peut lui aussi dissimuler une certaine amertume devant tout le sang libanais coulé pour rien. Plus de 25 000 morts et de 60 000 blessés, dit le Figaro, en moins de 14 mois, seront-ils le terrible tribut qu'aura dû payer le Liban pour aboutir aujourd'hui à un cynique marchandage entre les superpuissances. En sous le titre « Une opération périlleuse », le journal Le Monde semble assez sceptique aussi sur les chances du Liban de profiter de cette opération syrienne. Si, écrit Le Monde, l'intervention massive de l'armée syrienne au Liban avait les chances de mettre un terme dans ce pays à l'effusion de sang et à favoriser un compromis entre les deux camps en présence, alors oui, dit Le Monde, l'initiative de Damas aurait mérité l'approbation générale. Malheureusement, affirme Le Monde, tout indique qu'elle risque fort d'exacerber les passions et de diviser les Libanais et les Arabes.
Un commentaire sur ces articles de 1976, Georges Corme. À l'évidence, on considère les Syriens un peu comme des sauveurs qui viennent rétablir la paix. Ils avaient quand même d'autres intentions.
Ah non, pas tout le monde, justement. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire les partis de gauche en Europe ont leur sympathie avec le mouvement national et les Palestiniens au Liban et considèrent qu'il y a une lutte antifasciste avec de vieux clivages. Évidemment, nous voyons ici la presse de droite qui approuve quand même l'intervention parce qu'elle sauve justement ces partis dits chrétiens d'une déroute militaire. Donc on les voit approuver. Mais la Syrie aura besoin d'une caution arabe, qu'elle obtiendra d'ailleurs en fin 76, à partir d'octobre, et elle se transforme en force de dissuasion arabe. Il y a des contingents d'autres pays arabes qui viennent épauler les contingents syriens.
Oui, mais alors il y a aussi une autre caution qui est quand même assez extraordinaire que la Syrie devait avoir pour pouvoir intervenir au Liban, qui est au nord d'Israël. C'est Israël, c'est l'ennemi des Syriens qui approuve tacitement cette intervention syrienne du moment que, et vous le rappelez dans votre livre, Georges Corme, qu'on ne dépasse pas ce qu'on appelle la ligne rouge. C'est-à-dire que les Israéliens, en gros, disent tacitement aux Syriens, entrez au Liban, mais vous n'allez pas trop au sud, c'est ça?
Oui, oui, tout à fait, mais je pense que les Israéliens, tout comme les Syriens, ne voulaient surtout pas voir le Liban tomber aux mains d'un régime gauchiste. Le régime de Hafez Assad était un régime modéré qui avait mis au pas l'ancienne aile ultra-gauchisme, gauchiste du Baas en Syrie, et qui espérait négocier avec Israël, tout comme l'Égypte avait commencé à le faire. Donc l'intervention syrienne est plus une intervention vraiment pour rétablir l'ordre et empêcher des débordements. Et c'est bien comme ça que les Palestiniens l'ont vécu et le mouvement national libanais qui ont fait le coup de feu contre les troupes syriennes jusqu'à ce qu'arrive l'impondérable, si on veut, qui sont les accords de Camp David, la paix séparée entre l'Égypte et Israël, qui fait que la Syrie, à ce moment-là, va abandonné son alliance avec les partis dits chrétiens et
se
ressouder avec le mouvement national, ce qui donne une relance de la guerre dite civile.
Oui, d'autant plus que là, les Israéliens, qui ne sont toujours pas intervenus directement, vont le faire. Vous le rappelez, il y a les accords de Camp David, il y a Menahem Begin qui arrive au pouvoir en Israël et qui, lui, est très inquiet de la présence des Palestiniens au sud Liban, et c'est la raison qu'il invoque, en tout cas, pour justifier des interventions.
Moi, oui. Je crois que Begin cherchait surtout un second pays arabe qui signerait la paix avec Israël après l'Égypte, et il pensait que le Liban était mûr pour cela, parce qu'effectivement, les Libanais étaient fatigués de la présence de l'OLP, qui était quand même équivalait des représailles israéliennes constantes, qui étaient terribles contre toutes les parties du territoire libanais.
D'où une première intervention israélienne en 1978, 2 ans après les Syriens, qui permet aux Israéliens donc de s'installer à l'extrême sud du Liban, et puis 4 ans plus tard, le 6 juin 1982, une deuxième opération, l'opération Paix en Galilée, qui devait conduire les Israéliens à envahir tout le sud du Liban jusqu'à Beyrouth. Menahem Begin, le 6 juin 1982.
Now, ladies and gentlemen,
mesdames et messieurs,
so we didn't enter Beirut and we hesitated. Yes, indeed,
nous ne sommes pas entrés dans Beyrouth. Je reconnais que nous hésitons. L'hésitation est humaine.
But we will have to take care that all the terrorists leave Beirut.
Mais nous veillerons à ce que tous les terroristes quittent Beyrouth et le Liban. Il n'en restera pas un seul, croyez-moi. Pas un seul.
Aucun quartier n'est épargné. Pendant 88 jours, les fédayines, mais aussi les civils libanais et palestiniens, sont pris sous les bombes à implosion, le napalm, le phosphore, les missiles. La force, la violence et la cruauté de l'agression israélienne bouleversent l'opinion mondiale.
Vous avez vécu, vous, Georges Corme, l'arrivée d'Israël, le bombardement de Beyrouth.
C'est des événements 82. Que je ne pourrai jamais oublier, je crois, jusqu'à la fin de mes jours, et notamment ce visage de Begin que je regardais à la télévision israélienne sans comprendre, mais qui était tellement menaçant, qui était tellement arrogant, c'était vraiment effrayant, et ce siège inhumain de Beyrouth, plus le traitement inhumain de tous les prisonniers qui ont été attrapés, tout le monde l'a oublié, il y a eu un énorme camp de concentration au sud du Liban qui s'appelait Ansar, vous avez eu 20 000 personnes qui ont été mises dans ce camp, le seul été 82 de l'invasion israélienne a fait 30 000 morts, n'est-ce pas? C'était effrayant, c'était une fin de monde. La ville était assoiffée, on lui avait coupé les approvisionnements, enfin la moitié de la ville qui était sous le contrôle des Palestiniens et du mouvement national.
Ça essaie de faire partir les Palestiniens, de les terroriser. Il y a eu le fameux massacre de Sabra et Shatila.
Après, il y a eu
sous
massacre.
Les yeux de l'armée israélienne.
Oui, avec toute l'assistance technique qu'il fallait, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer les phalangistes dans cette partie de Beyrouth sans l'accord des Israéliens. Non, c'était des jours immondes. Et là aussi, je dois le répéter, cet aveuglement des puissances occidentales qui ont suivi Israël à penser qu'un président phalangiste pourrait ramener la paix au Liban était déplorable, avec des élections entre guillemets qui se déroulent avec les tanks israéliens qui entourent le Parlement. Mais tout ça a été inqualifiable.
Vous parlez de Bachir Gemayel et de son frère Amin, parce que Bachir a été assassiné.
C'était inqualifiable de la part de puissances qui se disent démocratiques.
Alors la guerre se poursuit, elle va encore se poursuivre pendant 5 ans, Georges Corme, jusqu'en 1989, date à laquelle, après 14 ans de guerre civile, sont signés les accords de Taif en Arabie Saoudite. Alain Ménard pour France Inter le 23 octobre 1989.
Cartons à la crème et hymne national ont marqué la fin des 23 jours de discussion du texte proposé par la Ligue arabe aux parlementaires libanais. Texte qui avait été préalablement soumis à la Syrie et que les députés ont dû accepter tel quel. Il porte sur un transfert de certains pouvoirs du président de la République chrétien vers le Premier ministre sunnite, les relations entre le Liban et la Syrie, et surtout officialise la présence syrienne au Liban pour 2 ans. Druzes et chiites ont rejeté ce texte car leurs communautés sont tenues à l'écart du pouvoir, et le général Michel Aoun a fait de même au nom de la souveraineté. Beyrouth, Alain Ménargue, France Inter.
C'était les accords de Taif en 89 qui n'ont pas mis tout de suite d'ailleurs un terme à la guerre au Liban, Georges Camp, puisque le général Aoun, on l'a entendu, avait refusé ces accords et il faudra attendre sa reddition en 1990 pour que la guerre se termine. Quelle leçon peut-on tirer de ce conflit interminable, très violent, qui a duré 15 ans, Georges Camp? Est-ce que c'est la condamnation au fond du communautarisme?
Ah, incontestablement, et je crois que tout mon ouvrage tente de montrer à tous ceux qui, hors du Liban comme au Liban, pensent que le communautarisme est une protection pour les communautés religieuses, que le communautarisme est l'inverse, c'est-à-dire que le communautarisme appelle les massacres de ceux qu'on prétend protéger ou qu'on veut protéger. Toute l'histoire libanaise le démontre, et ce qui se passe en Irak actuellement le démontre, ce qui a été fait en Yougoslavie, où le pays, alors lui, a totalement éclaté, n'est-ce pas ? Heureusement, le Liban est resté uni malgré cette tutelle syrienne pesante.
Il continue, hein, depuis 25 ans. Et pourtant, quand même, le Liban connaît la paix maintenant depuis 90. Non, il y a plus, avec un nouveau régime, une deuxième république, dont, avec laquelle vous n'êtes pas tendre, vous le dites, Georges Korn, république des scandales financiers permanents et de la corruption est allée au grand jour, hein, depuis 1990. Pourtant, vous en avez été le ministre.
Ah, j'ai été ministre du seul gouvernement qui a tenté une réforme, n'est-ce pas, et qui n'a pas réussi, bien qu'ayant pu faire un certain nombre de choses, parce que la partie adverse, c'est-à-dire qui sont les barons de cette république, qui pataugent jusqu'au nez dans la corruption, est allée au grand jour, n'est-ce pas, ont eu la peau de ce gouvernement. Aux élections de l'an 2000, ça a été un raz-de-marée grâce à l'argent, à l'intimidation, à un système électoral extrêmement mauvais, avec un retour de Monsieur Hariri, qui est le plus grand des barons, n'est-ce pas, et qui lui est uniquement un symbole d'argent, n'est-ce pas, et qui au fond a réussi à fédérer tous ces anciens chefs de milice reconvertis en puissance d'argent dans leur propre pays. Alors, le pays a été pillé pendant la guerre, il est repillé sous prétexte de reconstruction.
Mais enfin, il est en paix.
Il est en sécurité, non, il n'est pas en paix encore.
Merci Georges Camp. Pour en savoir plus, je recommande donc votre livre, Le Liban contemporain, histoire et société, qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Vous êtes également l'auteur de Le Proche-Orient éclaté, publié aux éditions Folio dans la collection Histoire, il vient d'être réédité, et Orient-Occident, la fracture imaginaire, publié aux éditions La Découverte. Vous avez entendu un extrait du documentaire de Simone Bitton, Palestine, histoire d'une terre, une coproduction de France 3 et de l'INA. Vous pouvez retrouver, vous le savez, ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Alain Darrigade et Clément Léotard, documentation Archivina, Claire Destac, Claire Tesser et Philippe Chassaigne, revue de texte Stéphanie Duncan.